Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau balado de l'agenda. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jonathan Carrero-Benoît et de Jérémy Junot. On va faire un petit récapitulatif de l'actualité concernant le coronavirus et les mesures provinciales et fédérales. Donc, bonjour messieurs, comment est-ce que vous allez? Vous survivez toujours à l'épidémie?
Très bien, c'est un peu plus compliqué mentalement par contre. L'isolation, ça fait pas tout le monde, mais en général, ça va très bien.
Toi, Jonathan?
Ah oh ben, écoute...
Dit-il en tout ça?
C'est... non, mais... il y a une part de moi, veux pas, qui est un peu... qui est un peu mitigée par rapport au confinement, dans l'idée où ça me permet de me redécouvrir. Tu sais, veux pas ça? Non, mais c'est vrai. Ah oh, non, mais pas dans ce sens-là quand même, voyons.
J'entends mais... les voix dans ma tête, puis ça me permet de voir de nouvelles perspectives.
Non, mais tu sais, c'est plus dans l'idée où ça me permet de me découvrir des nouvelles passions, ça me permet de réfléchir un peu également à mon avenir, ça me permet de faire le ménage dans mes affaires. Tu sais, c'est le genre de truc que ces événements-là nous permettent de faire en tant qu'être humain. Puis moi, je trouve ça très pertinent.
As-tu déjà constaté avant... Attends, moi, plus ça va, plus qu'on parle de ça, justement, j'ai constaté qu'en quarantaine, les gens qui voulaient vraiment mettre fin à la quarantaine, souvent, dans mon entourage, c'est plus anecdotique, par contre, là, c'est du monde qui n'ont pas d'autre motivation que de travailler tous les jours, puis parce qu'ils n'ont pas vraiment de passion personnelle, de sujets qui lui permettent de se développer eux-mêmes. C'est quand même intéressant ce que tu viens de dire pour elle.
Ah, ben, t'as, comme de fait. Mais
moi, ça m'a permis de découvrir à quel point on faisait beaucoup de vaisselle quand on vivait constamment.
Ah, mais de loin.
Je me semble, j'ai l'impression de remplir la vaisselle 14 fois par jour.
Bon, ah, ben, au moins, toi, vois que t'as un lave-vaisselle. Moi, je fais
ah,
la
oui,
vaisselle.
Ah oui, mais là, moi, je fais mon petit bourgeois. Là, je me plains qu'il y a un lave-vaisselle. Mais... Puis en plus, ma blonde le fait plus souvent que moi. Mais, néanmoins, ça nous fait réaliser certaines choses sur notre consommation personnelle puis des choses aussi. Comme ça que, normalement, aussi. Tu t'en rends pas compte parce que t'es parti. T'sais.
Non, effectivement.
Mais non, honnêtement, moi, ça m'a permis d'avancer dans plusieurs lectures que je voulais faire. Ça faisait longtemps que je lisais quelques pages de Piketty une fois de temps en temps parce que j'avais pas le temps autrement, puis là, j'ai avancé une couple de chapitres. Là.
Ah, ben t'inquiète.
Ça permet, quand on a, en ayant du temps comme ça, de faire certaines choses. Puis ça nous a permis d'avancer sur le site web, ça nous a permis de commencer à sortir des articles plus régulièrement.
Effectivement. Ben tu sais, c'est certain que, purement de façon professionnelle, il est vrai que l'agenda, si on regarde un peu son développement au courant des deux derniers mois, aussi ironique que ça sonne, j'ai l'impression que c'est en ce moment qu'il y a le pic est à l'heure actuelle dans notre cas, dans l'idée où justement les gens se cherchent quelque chose à faire, on leur propose un contenu politisé, quelque peu subjectif.
On aimerait ça pouvoir faire plus de balado, mais bon, c'est compliqué avec les circonstances actuelles. Là.
C'est compliqué, c'est certain. Tant qu'à être dans le sujet, je me permettrai de le dire. On vous a titillé lors de notre dernier balado sur
dernier
le sujet.
Balado. Mais tout ton féminin.
Donc, voici ce qu'il en est. En ce moment, on est dans la conception d'un local, vraiment un local d'enregistrement dans lequel on va vraiment pouvoir vous proposer un contenu de haute qualité. Ça va être isolé, il va avoir...
Des vidéos aussi.
Exactement, des vidéos, des capsules de vulgarisation politique et diverses en temps et lieu. Évidemment, bon, ça nécessite du matériel et tout ça, mais on est en cours d'acquisition. Et...
Il y a un truc qui est intéressant, excuse-moi de te couper encore, c'est la présence de Jérémy et pas anodine non plus dans le balado, que Jérémy risque d'être une figure de proue de ces vidéos-là, notamment sur ces concepts fiscaux et des choses comme ça. Ça s'explique quand même beaucoup mieux quand tu peux avoir du visuel à côté. Donc ça, de ce côté-là,
Surtout que je manque beaucoup de tact par écrit, puis je m'exprime beaucoup mieux en verbal.
Ouais, c'est sûr que c'est pas la force à tout le monde l'écrit. On a essayé, on a réalisé que Jérémy, ses articles pognaient pas mal moins. Il y avait autant de personnes atteintes que moi et Jonathan, mais il y avait deux mentions j'aime. Jonathan avait 15, moi j'en avais 25. J'étais comme, ouais, Jérémy, je pense qu'on va te faire. On va te concentrer sur autre chose. Mais les vidéos, c'est sûr que ça va être plus intéressant. Il va pouvoir nous expliquer ta réforme fiscale, mettons, ou la courbe de calcul du revenu, comme tu parlais, à place des seuils, ça s'explique beaucoup mieux avec un tableau. C'est beaucoup moins abstrait. Donc ça, on a vraiment hâte de ce côté-là de vous présenter ça. Mais on va revenir à l'actualité, parce que là, on est en train de dévier du sujet. Beaucoup de choses qui se sont passées quand même. Soyons honnêtes, là, on a probablement... c'est sûr qu'on va oublier des affaires. C'est garanti. Mais je vais essayer de faire un petit récapitulatif par de ma mémoire, qui est parfois méfidèle et parfois préfère me lâcher. Il y a Justin Trudeau qui a annoncé plusieurs mesures, notamment pour les étudiants. Il a annoncé que les étudiants qui n'étaient pas admissibles au PCU recevraient 1250$ par mois, si je ne me trompe pas.
Si l'étudiant en question
effectivement. Ne fait pas plus de 1000$ par mois, ce qui le limite à 19 heures au salaire minimum. Donc ça a fait tiquer plusieurs personnes. D'ailleurs, il y a le Bloc québécois, Yves-François Blanchet, propose une réforme de cette contribution-là, où, si j'ai bien lu, chaque dollar gagné par-dessus le 1000$ de son travail enlèverait 1$ sur 2 de la contribution du gouvernement fédéral. Donc c'est un peu un aide aux revenus.
C'est qu'au lieu que tu arrêtes de travailler direct à 1000$, ça fait juste faire en sorte que tu continues parce que tu vas quand même un intérêt.
C'est ça, mais tu vas quand même faire plus d'argent, puis ça va aider à stimuler la consommation puis à relancer l'économie, selon ce qu'on peut comprendre. Enfin, c'est l'espoir qu'il y a derrière ça. Mmh. D'autre part, on sait que les agriculteurs sont très inquiets en ce moment. Les travailleurs étrangers sont quand même assez vitaux, on le sait, pour la récolte. Et là, c'est vraiment en ce moment le gros dilemme, c'est est-ce qu'on plante autant, est-ce qu'on plante moins, est-ce qu'on prend le risque? Parce qu'il y a plusieurs fermes qui, là, en ce moment, c'est juste une question de si je plante toute ma production puis que j'ai pas les gens pour la récolter, je fais faillite. Donc là, il y a des appels de l'UPA à assurer les agriculteurs que s'il y a des pertes, le gouvernement fédéral va les repayer. Est-ce que c'est quelque chose de faisable selon vous, messieurs?
Totalement, totalement. C'est faisable. Puis c'est surtout que si on perd notre production agricole souveraine, dans certains cas, comme au Québec, si on commence à perdre notre production agricole ou une capacité, ou encore au Canada, le problème, c'est qu'on va dépendre de l'étranger pour fournir des marques. Si on dépend de l'étranger pour fournir des marques, de un, on perd le contrôle sur la qualité de la nourriture parce qu'ils ont des normes différentes des nôtres. De deux, c'est possible parce que tu préfères avoir un État qui s'endette parce que l'État a une capacité incroyable à s'endetter et payer sa dette par après, versus que ce soit les producteurs agricoles qui, de base, est un secteur très délaissé par les futures générations, surtout au niveau de la reprise par les futures générations des anciennes générations, des anciennes fermes, que ce soit laitiers, que ce soit production au niveau des légumes ou encore de la viande bovine.
Problème de relève, dans le fond.
Oui, puis si on les laisse planter, un des problèmes qu'il peut y avoir, c'est que les gens qui vont pouvoir racheter ces terrains-là ou ces fermes-là, même si ils plantent, ils vont valoir une fortune pareille. Ces plantes, c'est pas nous autres pour les racheter. Ça va être des investisseurs américains. Ou encore chinois, parce que juste en Abitibi, les Chinois étaient venus faire le tour du Grand Hydro pour acheter les terres. Enfin, c'est quelque chose que les autres visent beaucoup parce qu'ils voient déjà à l'avance que ça va être un problème récurrent, la nourriture dans un futur prochain.
Toi, Jonathan, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, écoute, moi je vais plutôt poursuivre avec ce que Jérémy vient de dire et je vais plutôt aller sous l'angle de la force de travail. On en parlait justement, là, juste avant le balado. En ce moment, le gouvernement incite les gens, les jeunes, à aller travailler sur les fermes cet été, justement pour éviter des pertes, éviter que les producteurs plantent moins par crainte, et pour éviter aussi d'aller chercher des gens de l'extérieur et qu'il y ait des
contamination.
Exactement. Alors moi, je vais simplement vous passer le message. Si vous cherchez quelque chose à faire cet été, allez appliquer sur le site de l'UPA. C'est super facile. Vous envoyez votre CV et c'est tout. Ils vont vous référer en fonction de la région et de la ville dans laquelle vous habitez. Moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Je suis très conscient que, juste à côté de chez nous, sur l'île d'Orléans, justement, ils cherchent énormément de gens et je compte bien travailler là cet été. Ça va être très enrichissant comme expérience et je vais encourager d'une certaine façon, de près ou de loin, nos producteurs d'ici. Alors, c'est une façon très simple et efficace, d'une part, de ne pas vous endetter, d'autre part, d'encourager nos producteurs d'ici, Et finalement, ben, ça va justement éviter tout problème fiscal et d'ingérence fédérale au Québec. Et dans les autres provinces, légitimement également. Donc,
oui, c'est pas juste le Québec, effectivement.
Non, non.
Ben, mais moi, de mon côté, par contre, je suis d'accord avec le point de vue que tu apportes, Jonathan. Par contre, je vais avouer qu'il y a un aspect qui me déçoit un petit peu plus du côté François Legault du Québec. L'encouragement fiscal pour la main-d'œuvre agricole est très faible, selon moi. Tu sais, je veux dire, 100$ par semaine pour un travail comme ça, c'est pas ça qui va faire en sorte que les jeunes ne chercheront pas un travail plus facile, plus proche de chez eux.
C'est un travail très exigeant de base. C'est un travail qui demande beaucoup de craft. Puis maintenant qu'on parle des fermes, plus comme au Lac-Saint-Jean, les Luettières, on parle de des fois, dépendant de que vous êtes, etc. Donc, je pense pas non plus que 100$ par semaine, ce soit efficace.
Ben, il y a clairement... Bon, d'une part, une injustice, mais il y a peut-être aussi une sorte de naïveté de la part du gouvernement, je dirais, où on prétend que 100$, c'est suffisant par semaine pour envoyer du monde travailler justement sur les fermes. Est-ce qu'ils ont fait seulement appel à des gens d'expertise, des gens d'expérience pour soumettre cette idée de 100$? J'ai pas l'impression, parce que vraiment, c'est pas...
Je pense qu'ils essayent de faire avec ce qu'ils ont pour le moment. Faut pas oublier que le Canada peut se permettre de dépenser beaucoup plus que le Québec.
Hein. C'est certain.
Le Québec imprime pas sa propre monnaie. Là. On peut pas juste commencer à dépenser en fou puis se commencer à 120% de dette payée.
Mais tu vois, moi, je comprends très bien ce que tu veux dire. Alors, de ce fait, pourquoi proposer aussi peu alors que ça l'aurait fait beaucoup moins, ça l'aurait beaucoup moins frustré les gens si le gouvernement n'aurait rien dit à ce niveau-là? Pourquoi aller proposer un 100$ qui semble complètement anodin pour le travail que ça demande alors qu'on sait très bien qu'à côté, on aurait pu simplement encourager et ça l'aurait fait le même travail?
T'sais, peut-être pour la symbolique, je veux dire, en même temps, je pense qu'il y a un petit problème. Écoutez, François Legault, là, on commence à manquer de gaz. On a le push qui a été fait au début, la poussée qui a été faite au début pour médiatiquement, pour les informations et tout ça.
Ouais.
Et pour... donne-moi juste 5 secondes. Là, j'ai mon chat en arrière qui décide qu'il fait des miennes.
Le minou.
Non, mais depuis un certain temps, c'est surtout, faut prendre en considération, c'est beaucoup du essai-erreur en ce moment parce qu'on n'a pas nécessairement le temps de consulter tous les experts. On est quand même dans une situation de crise jamais vue comme auparavant.
Non, c'est sûr.
Il y a surtout le fait, par contre, que je vais dire, ça, c'est quelque chose que je vais longtemps défendre et longtemps critiquer. C'est surtout beaucoup de vieilles mentalités qui datent des années 50, 60, 70, 80. Je veux dire, le Québec, on a eu une belle révolution, etc., mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi, des fois, certaines tendances à retourner en arrière dans la vision qu'on a du...
C'est clair.
La vision qu'on a des entreprises, du rôle de l'État. Puis dans ce cas-ci, moi, je trouve qu'avec Legault, ce qu'on voit, c'est un petit retour en arrière. Parce que, tu sais, mais ce n'est pas des jobs qui sont tant payants nécessairement non plus. C'est la vision qu'on a souvent des jobs agricoles. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement des emplois payants non plus. Il ne faut pas capoter, mais... Tant qu'à moi, c'est justement ça qui a fait excessivement mal à la communauté agricole depuis des années, c'est qu'on néglige l'importance de celle-ci. Puis on voit souvent que c'est déjà pas payant. C'est de la merde, entre guillemets, si je peux me permettre le terme. Là. C'est souvent la vision qu'on a des emplois dans ce domaine-là. C'est plate, mais c'est pas en donnant 100$ par semaine qu'on va finir par redorer l'image qu'on a de ces emplois-là.
Non, c'est ça.
De ce style de métier-là.
Non, c'est certain que 100$, je trouve que c'est pas assez, là, mais on va voir, il va peut-être avoir un ajustement, je sais pas, là, avec le fédéral, peut-être ouais, l'entente. Là.
Si on veut encourager les étudiants, il y a l'ordre de donner des bourses. C'est déjà que le fédéral le fait, c'est vrai, mais pour le bénévolat, par contre. Là. Mais pour ce qui est de travail dans les secteurs agricoles, ce serait intéressant de dire aux étudiants, regarde, on peut, si on paye pas beaucoup, mais en contrepartie, on peut donner des bourses
d'études. Ouais, bourses d'études, effectivement, ça peut être intéressant.
Ça, ouais.
pourrait aussi encourager que les personnes qu'on permet de sortir de prison plus rapidement en raison du coronavirus aient du travail communautaire à faire dans les
fermes. Oui, non, ça c'est vrai que c'est un très bon point. Et d'ailleurs, j'en parlais récemment avec des gens du milieu, pour ne pas dire de ma famille, qui sont justement là dans le domaine carcéral. Et c'était un peu une crainte dans le sens où ces individus-là, légitimement, pas tous, certes, mais une grande majorité, leur intention dans la vie suite à leur temps, si je peux le dire ainsi, c'est de retrouver un semblant de vie en société.
Ouais, puis là, c'est compliqué, en ce moment.
Ben, oui, mais c'est très complexe.
Les risques de récidive doivent être plus complexes, élevés, j'ai l'impression.
Ben oui, c'est extraordinairement plus élevé. Mais l'idée même, comme tu l'as dit, de les envoyer faire du travail communautaire, comme aller travailler justement sur les fermes, je trouve ça très pertinent à l'heure actuelle. Parce que c'est une, on va se le dire, on se mentira pas, une main-d'œuvre bon marché. Mm-hmm. Et en plus, ça leur permet de se réhabiliter à un travail, à un employeur et à, justement, comme je disais, un semblant de vie sociale.
Oui, puis c'est quand même un travail qui est à l'air libre bien souvent. C'est un travail qui a un certain sentiment de liberté avec l'extérieur puis tout ça, tu sais. Donc c'est quand même une bonne amélioration par rapport à être en prison, j'ose croire.
Ben, c'est
une bonne figure. Une bonne figure qu'on peut avoir, on peut se dire que ça fait un mois qu'on est isolé, puis il y a beaucoup de gens qui ne font pas bien, qui sont pas bien, puis ils veulent sortir. Voilà. Mais je trouve que ces gens-là font ça pendant 20 ans, des fois. Là. Je veux dire, c'est pas des situations.
Quand ils sont là pour 20 ans, par contre, c'est parce qu'il y a une bonne raison.
Ouais,
mais selon moi, amener l'idée de travaux communautaires, même quand ils sont en prison, comme faire des études de travaux communautaires,
c'est
vraiment bien, parce que ça peut amener autre chose qu'une vie où tu es isolé, où tu ne peux pas vraiment voir autre chose que des gens qui sont un peu comme toi, qui ont fait des métiers comme toi, des délits, je veux dire.
Ouais.
À long terme aussi, ça peut être une solution, juste les ramener dans un milieu de travail.
Ouais, je vais passer au prochain sujet, messieurs. Le fameux commentaire de Justin Trudeau sur les CHSLD.
Ah, il veut en parler, là. Il veut
Je veux en parler, là. Moi, là, parce que j'ai eu un argument là-dessus avec Jérémy sur Facebook, justement. Parce que j'ai écrit un article là-dessus pour l'agenda, justement, dans la section tribune. Puis, j'ai donné un petit historique, dans le fond, du gouvernement fédéral qui, selon moi, lentement mais sûrement, se désiste financièrement. Mais à mesure, essaye d'augmenter son influence. Et derrière ça, moi, je vois un certain coup de poker qui se prépare. C'est le service, les soins en santé dans les provinces deviennent de plus en plus inéquitables. On a des provinces en Atlantique où les gens doivent se faire amputer parce qu'ils n'ont pas la chance de voir un médecin cardiologue ou approprié pour un caillot, une phlébite, des choses comme ça. Et donc, à un certain moment, c'est certain qu'ils vont avoir une demande populaire pour que Ottawa prenne le contrôle du système de santé. Et ça, c'est le pire cauchemar de plusieurs provinces parce que la santé et l'éducation, c'est littéralement les deux compétences
les
piliers de la Confédération quand c'était à trait au pouvoir provincial. C'est Honoré Mercier et toute cette gang-là se sont battus toute leur vie durant, même l'évêque et tout ça, pour l'éducation et la santé. Et les mêmes provinces comme l'Ontario et tout ça, ils ont tenu leur bout là, pour avoir le droit à l'éducation.
En fait, pour être très simple, c'est en 1935, l'Ontario, pour donner un exemple, l'Ontario a dénoncé le gouvernement fédéral à ce qui a trait aux lois du travail, en fait. L'Ontario a déposé une plainte auprès du comité de Londres à ce sujet et l'Ontario
a eu la Cour suprême dans ce temps-là.
La Cour suprême n'existait pas à ce moment-là, effectivement.
C'était le comité de Londres qui était notre équivalent de la Cour suprême.
Exactement, c'est exactement ça. Et le gouvernement ontarien a eu gain de cause et le fédéral a dû revoir sa façon d'agir. Alors, c'est certain que le pouvoir des provinces n'est pas négligé dans cette situation-là. Par contre, le problème est le suivant, c'est que moi, j'ai peur justement que, à cause d'un mouvement populaire, comme tu le supposais, Sam, le fédéral tente de nous soumettre d'une certaine façon en déjouant un peu le système, comme King l'a très bien fait en 1943 de mémoire. Comment, excuse-moi?
Pour l'assurance chômage, c'est en 41, je pense.
41? Écoute, ça se peut fortement que ça soit en 41.
C'est dans ces coins-là, on ne s'en souviendra pas sur un.
Oui, c'est ça. Bon, dans les années 40, bref. Alors, j'ai vraiment cette crainte. Bon, c'est l'historien en moi qui parle, c'est certain, mais j'ai quand même cette crainte.
Mais c'est vrai qu'historiquement, même toi, Jérémy, t'en avais parlé, historiquement, en temps de crise, Ottawa a tendance à centraliser.
Tout le monde a tendance à centraliser, que ce soit le fédéral, que ce soit le provincial, puis ça, c'est une erreur en soi. Puis regarde, en tant que tel, je suis d'accord avec votre peur, en général, je vais vous le dire, je suis d'accord, sauf que faut prendre en considération que la raison pourquoi la crise actuelle, c'est un calvaire, c'est surtout parce qu'on a centralisé les systèmes de santé au Québec. Le réseau complet de santé au Québec est ultra centralisé. Ça fait en sorte que quand un cas ou des situations arrivent dans une région, le temps que ça se rende au provincial, en fait, au ministère ou aux gens, tant que c'est quand même la direction du Suisse, la consulter avant, après ça, tu vas voir un autre palier.
T'as vu l'organigramme là, la caricature?
Écoute, entre vous et moi, les gars, je pense qu'on est quand même d'accord pour dire que le CI3S est en soi un potentiel échec total.
Pas un potentiel échec total, c'est un échec total. Tant qu'à
bon, ben voilà.
C'est une chimère qui a été inventée par le PLQ.
Ah, oh, ben littéralement.
Moi, je veux dire, comme j'ai dit au passé, écoutez, la critique que Trudeau a fait, okay, moi, je la vois juste comme une critique. S'il veut vraiment prendre le rôle des CHSLD, honnêtement, je pense pas qu'il va pouvoir, parce qu'on va avoir une grosse confrontation. Par contre, là, ce que je veux en venir, si les gens veulent qu'on aille vers le fédéral, le problème, c'est que tu peux pas lutter contre les gens non plus. Mettons qu'on ferait un vote populaire, ça dirait 80% des gens qui veulent aller au fédéral. La question qu'on devrait se poser, c'est comment on peut l'empêcher sans nécessairement accuser personne, puis juste dire « OK, regarde, on va restructurer le système complet. » Parce que d'abord, c'est vrai qu'il faut accuser tout le monde. Je veux dire, il y a une erreur fondamentale, mais oui, le fédéral est coupé. C'est vrai qu'avant, on était financé à 50%, là, on est rendu à 23, t'as l'air, ça me dit?
23, puis vers l'horizon 2035, on va être à 18. C'est insoutenable pour les provinces de l'Atlantique, entendons-nous. Le Québec a du mal à financer ça.
Même l'Ontario. Il y a deux points que je tiens à souligner là-dedans, par contre, de ma perspective, par contre, je tiens à préciser. La première étant que le financement augmente d'année en année. Ça, c'est vrai. Par contre, les besoins changent parce que la population vieillit beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, puis on n'a jamais eu vraiment de relève. Ça, c'est un des gros problèmes, en fait. C'est même pas, ça fait juste commencer, en fait. Ça va être encore pire prochainement. C'est le fait que notre système de santé va être insoutenable. Même si Ottawa augmente son financement, ça ne sera pas assez vite pour les besoins qui vont augmenter au Québec. Ça, c'est tout à fait vrai. La différence que moi, je critique qui n'est pas la faute d'Ottawa, c'est la gestion de notre système. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'on voit venir ce courbe-là. Ça fait 20 ans qu'on le sait, mais ça fait 20 ans qu'on ne fait rien. Ça fait 20 ans qu'on s'est fermé. Que ce soit le PQ, que ce soit les libéraux, ou encore pire, la CAQ qui ont eu trois fois des demandes par rapport à ça, autant par les syndicats que par l'Assemblée nationale, désolé. Et il y a eu un aveuglement, puis aujourd'hui, on paye les prix, puis je suis pas prêt à accuser seulement le PQ, le PQ, tout le monde est responsable. Autant les Québécois qui ont voté, parce qu'on a voulu couper, on voulait couper, parce que on a une dette. La dette au Québec n'était pas si pire. Pour vrai, versus la dette au Canada, là, au Québec,
on n'était pas si pire.
On aurait pu s'endetter un peu plus. La différence, il y avait des solutions pour éviter ce problème-là, comme Pharma-Québec. T'sais, je sais que c'est un plan de Québec solidaire, mais...
C'est pas grave, il faut souligner les bonnes idées, peu importe où
c'est... Moi, personnellement, écoute, quand cette idée-là a été soulevée en 2018, et croyez-moi que je me le suis fait dire, mais j'ai quand même tenu mon bout, j'ai été le premier en Ottawa à dire que c'était une excellente idée, puis que je crois qu'il fallait les soutenir à ce niveau-là. Et je le crois encore. Je le crois encore.
Oui, par ça devrait, Québec, ça devrait être un plan. Oui.
Est une excellente
idée. Parce que notre approvisionnement actuel provient des compagnies pharmaceutiques. Puis je veux pas être méchant. Les hôpitaux font ça. Bon, ces hôpitaux là sont affreusement chers.
T'as tellement raison.
Juste les médicaments pour le sida, c'est que quelqu'un peut coûter 120 000 en dedans de 3 ans. C'est insoutenable. Écoute, là, on s'entend que les personnes âgées qui ont l'Alzheimer, etc., des maladies dégénératives, ça l'empêche.
Ils sont en augmentation en plus.
Si on avait nationalisé la production, on aurait réduit de façon considérable les coûts.
Mais écoute, ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cartel est tellement rendu imposant que je ne sais même pas si ça serait faisable. T'sais, malgré le fait que c'est une bonne idée, je ne sais même pas si ça serait faisable de faire ça aujourd'hui.
Ça serait faisable de différent que ça prend du monde en politique. C'est une des principales raisons pourquoi je veux qu'il y ait plus de jeunes. C'est pas normal qu'au Québec, on ait pratiquement pas de jeunes en bas de 30 ans en politique. C'est pas normal. Puis non seulement que ça m'inquiète, mais je vais le dire moi-même, mais je suis rendu plus vieux dans la cinquantaine. J'aurais plus d'énergie pour me battre pour des projets comme ça contre un gros lobby. Versus que quand t'es jeune, t'as tout le temps que tu veux pour te battre contre des lobbies, t'as de l'énergie. T'as des projets, tu veux que ta réputation brille, des accomplissements que t'as fait, mais quand t'es rendu plus âgé, tu veux plus de stabilité, tu veux plus... C'est plate, mais ça va prendre un nouveau vent politique, ça va prendre beaucoup plus de jeunes en politique, puis que ce soit tout parti confondu, Pharmac Québec est un essentiel si on veut réduire nos coûts de façon conséquente. C'est pas de couper dans la main d'œuvre qui va nous sauver les coûts, c'est couper dans ce qui coûte réellement cher, puis c'est tous les médicaments qu'on doit prendre. C'est parmi le top 5 des grandes dépenses en santé.
Non, mais y a l'aspect des médicaments est très, très, très important, effectivement. Moi, je pense honnêtement que ça prend une commission d'enquête ou un moratoire, appelez ça comme vous voulez. Moi, je pense que ça prend une commission d'enquête sur les fonctionnaires au Québec et sur les cadres, spécifiquement dans les ministères comme la santé.
Oui, oui, oui.
C'est pas normal que le gouvernement finance des emplois que je qualifie d'emplois fantômes. C'est-à-dire que c'est des emplois qu'on donne à des gens qui sont bien sympathiques, méritent une job, fort probable. Mais leur job, ils la trouveront au privé, sincèrement, parce que c'est pas aux citoyens de payer des employés qu'on a créé un poste pour absolument rien, juste pour créer de l'emploi puis résoudre le chômage. C'est pas logique.
C'est ce qui s'est passé dans les années 60 et 70 au Québec. Et on a eu un problème énorme, en fait. C'est le fait que tu avais un taux de chômage quand même assez élevé. Puis une des façons de régler ces problèmes-là, dans le temps, avec des idées qui fonctionnaient dans le temps, malgré qu'aujourd'hui, on paye vraiment le prix faux parce qu'on n'a jamais pris le temps de les réviser, c'était « on va créer des emplois ». Mettons que, tu sais, aujourd'hui, tout est super hiérarchisé. Mettons que tu vas faire un travail de construction des années 60, tu avais besoin d'un ingénieur, puis un gars de la ville qui checkait ça ensemble, faisait des pains, faisait sûr que tout était correct, tout était correct, tout fonctionnait. Aujourd'hui, ça te prend 7 ingénieurs différents pour
voir un... Ça prend un gars pour les tuyaux, un gars pour les fils, un gars l'isolation. Ah ouais, il faut...
Dans le temps, la logique était que pour créer des emplois, sauf qu'on a fini par créer des emplois fantômes volontairement. Puis ça, c'est pas vraiment de la faute des syndicats, je veux dire. C'est carrément l'État qui a créé des emplois fantômes parce qu'il fallait qu'on crée de l'emploi pour gagner nos prochaines élections. Il fallait qu'on réussisse à faire en sorte que tous ces gens-là aient une job. Mais on a fini par créer une bureaucratie insoutenable. Puis là, aujourd'hui, on paye le prix de cette bureaucratie insoutenable-là. Quand on parle de commission d'enquête, c'est clair, mais ça sera pas juste au niveau de la santé, ça va être au niveau aussi des partis politiques parce que, regarde, moi, je vais être honnête. Eux répondent en bout de ligne à ceux qui donnent les ordres. Puis je veux pas, autant que le ministère donne les ordres, autant que chaque parti a le pouvoir de faire des réformes. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y en a pas une qui a eu lieu. Encore une récemment, mais ça a été.
Je pense que le seul parti de l'histoire moderne du Québec qui a parlé d'une forme de régime à l'état public, dans le bon sens du terme, et non pas juste d'austérité, c'était l'ADQ de Mario Dumont. Mais. Mario Dumont étant Mario Dumont, il était un peu sec. Quand il a dit qu'il fallait qu'il coupe quelque chose comme une dizaine de milliers d'emplois à fonction publique, les gens ont comme fait hey, c'est beaucoup d'emplois, ça.
Mais le problème, c'est surtout que je trouve qu'on n'importe pas l'idée d'une réforme de la bonne façon. T'sais. Je veux dire, oui, on perd des emplois, mais dites-vous que, moi, selon moi, on manque de ministères. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un ministère et des enquêtes internes complètement indépendantes de tout ministère pour être sûr d'avoir la plus grande transparence possible. Fait que ça fait d'autres emplois qui sont essentiels dans ce cas-ci, parce que chaque ministère...
Qu'on fasse des emplois en informatisation aussi. T'sais, je veux dire, ça, je comprends que c'est pas la personne qui travaille au ministère de la Santé dans un bureau à se tourner les pouces qui va le faire, mais, tu sais, je veux dire... Faut aussi voir que tu crées un emploi utile, une vraie valeur économique.
Oui, mais c'est surtout c'est dans la réforme, c'est essayer de créer un système où tout le monde est imputable de ses erreurs. Pour vrai, parce que moi, quand j'ai travaillé dans la fonction publique, quelque chose qui m'avait surpris, c'est à quel point c'est impossible de rendre quelqu'un imputable d'une erreur. C'est impossible. C'est tellement rendu complexe que quand quelqu'un fait une erreur, ouais, mais j'ai fait l'erreur, ouais, mais l'autre après ça, t'es censé surveiller, ouais, mais là, je l'ai surveillé, mais l'autre après moi, t'es censé faire une autre vérification. Je suis OK, c'est imputable. Là, c'est ouais, mais je l'ai. Là, t'arrives au dernier, mais le dernier va dire, mais c'est en fonction du ministère. Là, le ministère, tu peux pas rien faire contre le ministère. Je suis désolé, mais c'est ça.
Non, effectivement, il y a un gros problème de fonction publique. Puis c'est là, c'est certain que pour ceux qui nous écoutent, qui doivent se dire, mais là, arrête pas de parler qu'il faut dépenser plus, qu'il faut investir, tout ça. Puis là, ils parlent, il faut qu'on coupe dans la fonction publique. Non. Mais pas pour moi. Je parle pas de couper dans la fonction publique, je parle d'optimiser la fonction publique. La fonction publique pourrait nous revenir au même prix, même plus cher après les réformes qu'on aurait faites, mais elle fonctionnerait mauditement mieux, par contre.
Le problème, c'est qu'il...
La fonction publique peut coûter plus cher, surtout en santé, si on commence à payer nos préposés, nos infirmières, puis nos infirmières auxiliaires avec un prix qui a de l'allure.
C'est que l'affaire, c'est qu'il y a un management public qui s'est mis en place au Québec, puis légitimement en Amérique du Nord, qui est très, 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 très difficile à réformer de par sa bureaucratie, justement. Alors là, c'est comme une espèce de roue vraiment de l'infini où on revient constamment à l'idée que il y a trop de bureaucratie, donc on ne peut pas faire ça. Tu sais,
c'est la bureaucratie qui se nourrit elle-même, au final.
Oui, oui, exactement. Exactement, c'est ça. Donc, écoute, il va falloir beaucoup, beaucoup de volonté politique.
Et là, donc, dans les prochaines années si on réfléchit à ça pour réduire cette bureaucratie-là, est-ce qu'on doit aller vers une centralisation vers Ottawa comme le fédéral tend à proposer ou on devrait aller vers une décentralisation à l'intérieur même des provinces? Moi, personnellement, je pense que t'es mieux d'avoir une décentralisation.
Bon, voilà, c'est
avec
ça.
Avec des acteurs qui ont plus de responsabilités, mais qui sont imputables, comme Jérémy disait.
C'est ça. Donc,
en fait, à court terme, tu vas être obligé de centraliser au provincial pour faire passer les réformes que tu veux pour après décentraliser.
Sauf que c'est là le nerf de la guerre. C'est que si tu centralises, après, personne ne veut laisser ça, ce pouvoir-là.
Nice.
C'est un des problèmes, c'est que tu ne peux pas juste le décentraliser. Parce que pour décentraliser, il faut que tu centralises davantage pour passer les réformes que tu veux pour après ça décentraliser. Sauf que maintenant que tu passes les réformes que tu veux, là, tu vas-tu décentraliser ton pouvoir.
Ça devient compliqué.
Oui, mais t'as pas le choix de centraliser parce que si tu laisses ça comme c'est là, c'est tellement insoutenable que tu vas vouloir passer quelque chose que maintenant ils vont dire « ouais, mais non ». Tandis que si c'est carrément le gouvernement qui a le dernier mot dans ce cas-ci, tu peux faire tes réformes. Mais après, il faut absolument que tu décentralises, sinon tu peux retourner dans le chaos qu'on a vécu.
Okay, bon, prenons un exemple. Bon, on a le CI 3S, OK? Alors, si je comprends bien la logique que tu nous proposes, Jérémy, c'est que le CI 3S, dans sa façon de fonctionner à l'heure actuelle, il faudrait être en mesure de... En fait, là, c'est là que ça devient compliqué parce que, d'une certaine façon, on crée plus de bureaucratie pour la décentraliser.
Non. Dans ce cas-ci, dans le fond, c'est qu'au lieu que ce soit le CI, parce que le CI 3S a une certaine indépendance au niveau de l'État. Ton but, temporairement, pour faire des réformes, ce que tu n'auras pas le choix de faire, c'est de faire en sorte qu'il soit plus indépendant, c'est l'État qui décide.
Tu mets sous tutelle, dans le fond.
Oui, mais le temps que tu fasses des réformes, ça, le problème, c'est que quand tu mets sous tutelle, on a rarement vu quelqu'un relayer le pouvoir après une fois que la tutelle est finie. Ça ne s'est jamais vu, en fait.
Ça va être assez compliqué.
Mais si on ne le fait pas, le problème, c'est comme on le voit aux États-Unis, on finit par avoir une instabilité politique, une perte totale envers la démocratie et envers le système démocratique. Là, si on ne fait rien, dans 50 ans, peut-être même plus proche que ce qu'on pense, on risque d'avoir une instabilité politique incroyable. On risque d'avoir des partis. T'sais, on parle que Legault est populiste. Ça peut que ce soit un warning, parce que selon moi, si on continue dans l'étape qu'on fait là, c'est-à-dire un peu n'importe quoi, on risque d'avoir des partis ultra populistes, tout ce qu'on va
Ça commence déjà, mais ils sont très minoritaires encore. Pour l'instant, c'est ça. C'est qu'on s'est dit. Donald Trump s'était lancé pour la présidence des années 2000 début 2000. Personne n'avait voté pour lui, c'était pas sérieux. Il se réessaye 15 ans plus tard, puis il gagne. Donc, tu sais, je veux dire, ça prend pas nécessairement 50 ans.
Il y a clairement eu une évolution dans la... Je sais pas, je suis pas prêt à dire que c'est dans la mentalité des gens, mais c'est plutôt dans la...
Mais c'est le phénomène de la fenêtre de Overton.
Ah, explique, je suis pas sûr de comprendre.
Ouais, la fenêtre de Overton, en anglais, Overton Window, ça sonne moins bien en français, mais bon. C'est que, en gros, c'est la fenêtre de ce qui est acceptable sur le spectre politique. Je vulgarise ce que j'ai compris. Je vulgarise une vulgarisation. Fait que si jamais je me trompe, vous m'enverrez des messages. Moi, la façon dont je l'ai compris, c'est que c'est la fenêtre de ce qui est acceptable en politique. Sauf que cette fenêtre-là peut se déplacer soit à droite, soit à gauche, soit des deux côtés. Mmh. Elle s'est déplacée relativement à gauche pendant une longue période de temps parce qu'on a vu mariage gay, avortement, toutes ces choses-là. Semblerait qu'il y a eu aux États-Unis le mouvement inverse. Un mouvement beaucoup vers la droite. C'est-à-dire le Tea Party s'est formé quand Obama a été élu, le Parti républicain s'est radicalisé énormément, t'as eu des coupures fiscales pour les riches, des choses comme ça. Bref, on le voit en ce moment, même Mitch McDonald, je ne sais jamais comment prononcer son nom, le leader du Sénat républicain qui dit non au sauvetage des États bleus. Mais là, les États bleus, c'est parce que c'est tes États qui rapportent le plus, mon gars. Tu peux pas juste faire de la politique sur un sauvetage.
C'est surtout
ça serait jamais vu à l'époque, mettons, de Bush père.
Ni encore ni W. Bush. Je veux dire, autant qu'on peut le critiquer, autant que ça serait jamais réellement vu non plus, parce qu'il fait quand même de la classe. C'est surtout le fait que ce qui est drôle dans ce cas-ci, il dit il a proposé à New York de faire faillite. Mais ce qui est drôle, c'est que l'État du Kentucky, celui de sénateur Mitch McConnell,
son État, oui,
dépend des revenus de New York. Parce que New York prend moins que ce qu'il produit. Le Kentucky prend plus que New York, même si c'est un État incroyablement moins peuplé que New York, prend beaucoup plus que ce que New York prend, même pas en proportion de la population, en brut.
Ah, c'est... Mais ça, c'est pour ça qu'on voit ça aux États-Unis, mais on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Mais ça peut arriver ici. Personnellement, non, mais... moi, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, là, ça risque de faire un effet peut-être... ça pourrait être un effet un peu catastrophique, c'est que du côté des démocrates, on pourrait assister à une polarisation, c'est-à-dire où la fenêtre, au milieu, elle existe encore théoriquement, mais personne n'est dedans, puis les deux personnes sont aux extrêmes, et donc la fenêtre s'élargit, mais des deux côtés, puis le fossé entre les deux fait juste s'agrandir.
Biden, dans un sens, ne ferait pas partie de cette théorie-là, justement, parce qu'on s'entend que Biden
n'est pas... s'il gagne, c'est un peu l'anti... T'sais, lui, c'est un peu comme le gars où on va mettre un gars au milieu, centre-gauche, avec d'influence de Bernie, en espérant que Bernie fasse quelque chose avec.
Ouais, c'est ça.
Puis on va voir qu'est-ce que ça donne, tu sais.
Si je peux me permettre, parce que je trouve qu'on est un peu sur la politique américaine, en bout de ligne, là, la raison pourquoi Trump a gagné, il faut aussi se mettre en considération que le monde était tanné. C'est une des raisons pourquoi j'ai peur qu'on continue la route qu'on fait là. C'est que la raison pourquoi Trump a gagné, c'est pas parce qu'il était intéressant, c'est que le monde était tanné de l'establishment, puis il voulait de quoi différent. Là, tu avais Trump Clinton qui proposait une continuité.
Clinton, c'était le candidat establishment par excellence. C'était vraiment la politicienne de carrière. Puis
Ben, ce qui me fait peur, c'est qu'autant qu'on pense que Trump risque de perdre à cause de ses conneries, autant que le monde ne veut pas retourner à avant. Le monde ne veut pas retourner dans le passé. Parce que Biden, je ne veux pas être méchant, il représente encore l'ancien establishment.
Mais c'est clair.
Il veut retourner à avant. Même si Trump est mauvais, même s'il y a des pires présidents qu'il y a eu, si ça aurait été Bernie Sanders, ça aurait été le contraire, par contre. Parce qu'il veut juste un changement.
On serait passé peut-être à un populiste de gauche versus un populiste de droite. Après, je pense pas que Bernie Sanders soit du même niveau que Donald Trump en populisme, entendons-nous. Là.
C'est sûr.
C'est pas ce que j'ai.
Mais il y a clairement, et j'ai complètement perdu l'idée que j'avais dans la tête.
au Québec, pour faire la transition au Québec ou au Canada, on le voit un petit peu. La fenêtre d'Overton au Canada s'est déplacée beaucoup à gauche. Oui. Entendons-nous, là, quand c'est rendu que le NPD a de la misère à se démarquer du Parti libéral parce que le Parti libéral est rendu à gauche de même, puis je m'excuse, Jérémy, là, ça fait peut-être mal au cœur à entendre ça, mais...
En fait, c'est surtout que... Je vais juste mettre les pendules. Alors, ici, il y a une différence entre dire puis faire.
ça le mérite d'être ça.
La deuxième chose que je tiens à préciser, c'est que le Parti libéral a adopté une gauche sociale, mais pas une gauche économique. Et ils ont même jamais été de droite économique que ce qu'ils l'ont été.
La deuxième affaire, je vais te référer à Paul Martin, Jérémy.
Ouais, ben en fait, moi je parle plus au niveau des buyouts, des compagnies pétrolières, etc.
Ah, ils ont dans ce sens-là. Droite économique, Paul Martin, là, c'était quand même bon. Ouais,
j'avoue,
on a coupé 11% du budget canadien. Let's go.
Mais sinon, t'as aussi le fait que les mesures actuelles, la PCU, etc., sans vouloir offenser personne, ni vouloir me vanter, mais ça reste que c'était des mesures proposées par le NPD qui ont été backées par le LOC en tant que tel. Parce que le NPD avait parlé de la PCU 2 semaines avant qu'elle soit appliquée. Puis ce qu'on sait, parce que dans le fond, je fais partie un peu des conférences qui existent à l'interne du parti, ce qu'on sait puis ce qu'on a appris, c'est qu'au départ, Trudeau voulait rien savoir de la PCU. C'était pas un bon plan. Puis finalement, quand on a vu que la crise s'alignait pour toffer, parce qu'on va se dire ça va durer un an, cette crise-là, sans compter de la crise économique après, ben là, finalement, ça s'est aligné vers une bonne idée, puis finalement, il l'a accepté. Le 75% de subvention salariale, c'est une idée du NPD.
La subvention sur les coûts fixes, c'est le bloc, si je me trompe pas.
Ouais, ça se peut aussi, au niveau des loyers commerciaux, je pense.
Mm-hmm, ouais.
Mais ça,
oui, les partis d'opposition ont fait un beau travail de ce côté-là, par contre.
Oui,
ils ont proposé, puis ils ont mis le gouvernement face à ses obligations.
C'est pour ça que moi, ça me choque un peu, OK? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est, autant que c'est pas le temps de politiser la crise, c'est vraiment pas le temps. Autant que ce qui me choque, c'est que les libéraux prennent absolument tous les crédits quand ils étaient pratiquement contre tout ce qu'ils ont fait au départ.
Non, c'est plus ça, c'est sûr.
C'est... En dedans de moi, j'ai comme un bout qui dit « Je sais qu'il ne faut pas politiser la crise, puis je sais qu'il ne faut vraiment pas le faire. » Mais en même temps, je suis un peu tanné de voir les gens dire « Ils font tellement des bonnes mesures quand il faut départ. » Ce n'était même pas une mesure qu'ils voulaient appliquer, puis ils n'étaient pas d'accord à cette mesure.
Mais pour le fédéral, ça se déplace plus à gauche, et là, j'ai l'impression que ça va se déplacer encore plus à gauche en raison de la crise. Ça serait mon impression. Ouais. C'est que ça serait...
Parce qu'à gauche, on a tendance à centraliser. Historiquement, les partis de gauche ont tendance à un peu plus centraliser.
Mais c'est ce qui me fait un peu peur aussi avec tout ça. Après, j'ai hâte de voir au Québec, ça va être quoi le réflexe. Mais, bon, enfin bref. Là, on va quand même parler du fameux plan de déconfinement. On n'est pas des experts personnes ici, hein, donc attendez-vous pas à ce qu'on vous apporte l'avis d'un microbiologiste diplômé de Harvard, là, mais bon, on va quand même essayer d'y aller avec ce qu'on sait. Hein?
On met pas qu'on a étudié le sujet, par contre. On a beaucoup.
Ouais, ben, tu sais, on s'est informé, là. On a regardé, là. On n'est pas des experts, mais on n'est pas non plus Gérald sur le bord du trottoir qui a lu Beaverton. Tu sais, c'est... Bref. François Legault annonce un plan de déconfinement pour un petit peu à deux vitesses, c'est-à-dire le Québec et Montréal. Généralement, Montréal semble avoir une semaine de retard sur le déconfinement. Juste un exemple, les concessionnaires automobiles au Québec vont être déconfinés à partir du 11 mai, comme les écoles primaires. Mais à Montréal, c'est le 18, donc un petit décalage de 7 jours. Il semblerait qu'il y ait un déconfinement pour les commerces qui se préparent à partir du 4 mai. Vous me corrigerez si je me trompe. Petit déconfinement partiel qui va... Mais là, la question que je me pose, messieurs, c'est est-ce qu'on essaie de déconfiner trop de choses en même temps et que ça va rendre difficile d'identifier quel secteur qui fuite? Parce que si on fait juste déconfiner les écoles primaires, on voit que ça fout le système de santé à terre. On va savoir que les écoles, c'est un... c'est... Non, on ne fait pas ça. Après, si on déconfine 6 affaires en même temps, c'est dur d'isoler laquelle qui nous a mené à la situation.
Si je peux me permettre, la chose que j'aurais faite de façon primordiale, j'aurais déconfiné les régions du Nord en premier. Vu qu'il y a peu de cas là-bas, puis que c'est très bien contrôlé, puis qu'il y a des risques de propagation minimes dans le Nord, la première chose que j'aurais fait, c'est déconfiner les régions du Nord, pas l'ensemble du Québec d'un coup. Parce que là, tu sais pas, là, on ne sait pas si quelqu'un va se déplacer. Je ne sais pas s'ils vont déconfiner les régions. D'aller en parler peut-être des déconfinés prochainement.
Déconfiner région par région, dans le fond, tu veux dire? C'est-à-dire à l'intérieur du Nord, une circulation du mouvement, mais pas une circulation entre les régions.
Là. Moi, je pense que tu aurais pu déconfiner le Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu aurais pu déconfiner l'Abitibi-Témiscamingue, tu aurais pu déconfiner la Côte-Nord. Puis, regarde, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour y aller, t'as juste soit la TUC, soit le parc du Saguenay. L'Abitibi, c'est le parc de la Grande-Île, le parc de Chibougamau pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, j'aurais juste barré le parc.
Ouais, tu peux passer par l'Ontario, là, mais ça vient compliqué, là.
Ben, tu peux pas sortir en.
Tu peux pas sortir en ce moment. Mais moi, ce que je pense qu'il aurait dû être fait, c'est. Puis là, personnellement, ça, c'est mon opinion. Puis c'est quelque chose que j'ai lu aussi de certaines recherches. On aurait dû déconfiner certaines régions à l'intérieur de leur territoire, mais quand même de les verrouiller du reste du Québec. C'est-à-dire, l'Abitibi-Témiscamingue, on déconfine, c'est-à-dire les citoyens peuvent aller faire leur commission, tout ça, mais personne ne peut entrer ou sortir de la région. Et ça, c'est pour éviter qu'on aille des gens des autres régions qui viennent se réfugier là-bas ou des choses comme ça, en ayant malheureusement le virus avec eux sans le savoir.
Oui, mais il y a ça aussi qui est applicable. La raison pourquoi j'ai parlé d'Abitibi et de lac, c'est que l'Abitibi, les cas sont pas mal stagnants. Au lac, il n'y a pratiquement pas de cas. Fait que ça, c'est de base, dans ces contextes-là, je pense pas qu'il y ait eu quelqu'un qui aurait été en Abitibi pour se cacher, sachant pertinemment qu'en Abitibi, c'est tout à Rouen qui sont pratiquement.
Oui, puis c'est surtout un CHSLD et les résidences peuvent se manger, je pense.
Oui, puis le lac Saint-Jean, lui, c'est le contraire. Le lac Saint-Jean, il n'y en a pratiquement pas. C'est le Saguenay qui en a beaucoup. Fait que ça, entre le lac Saint-Jean et l'Abitibi, je pense que tu aurais eu aussi une possibilité d'ouvrir interrégional, parce que d'abord, c'est très minime les cas qu'il y a là, mais comme je te dis, moi, c'est vraiment plus par segment. Qu'est-ce qui t'a peur à ouvrir les régions comme on fait? En fait, ouvrir le Québec, quasiment comme on fait là, à la vitesse qu'on le fait. Mm-hmm. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'au maintenant qu'on prend actuel le coronavirus actuel, en ce moment, il y a 3 souches. Depuis janvier, il est muté 33 fois. On n'a aucune idée dans ce qu'on s'embarque parce qu'il n'y a pas assez de recherche. Malgré qu'on fait tout ce qu'on peut, c'est un nouveau virus. Il y a 3 souches déjà qui se sont développées. Ça veut dire qu'ils mutent excessivement vite, comme 33 mutations depuis le 1er janvier qui ont été enregistrées. Fait qu'on aurait beau être immunisé contre une des 3 souches, t'es pas immunisé contre les deux autres populations. Fait que là, maintenant qu'on finit par se développer, puis en passant, c'est pas prouvé qu'on est immunisé une fois qu'on l'attrape. C'est zéro pis pas prouvé. Fait que, tu sais, c'est un virus qui mute excessivement vite, qui a déjà 3 souches depuis novembre, puis qu'on déconfine déjà, je trouve ça dangereux. Puis on va reprendre la grippe espagnole. La grippe espagnole, si on prend ce qui s'est passé, au départ, il y a eu des inquiétudes au niveau de la grippe espagnole dans la première vague. Ils ont fait des recherches, et finalement, ils ont dit que c'est pas si pire, parce que ça n'avait pas un taux de mortalité incroyable, la grippe espagnole dans la première vague. Quand la grippe saisonnière est arrivée en même temps, il y a eu une mutation incroyable au sein de la grippe espagnole, ça a tué 50 millions de personnes. Je veux dire, faut pas être fou. On a des données historiques qui démontrent qu'on serait peut-être plus mature d'attendre puis de faire des déconfinements beaucoup plus sélectifs. Parce que maintenant qu'on reprend la vie, ben moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il regarde ce qui se passe dans le sud. On voit que le monde est juste totalement tout déconfiné. On regarde ce qui se passe ici, autant que...
Ouais, aux US, ils ont un petit peu le problème de le phénomène la cabin fever, la fièvre du chalet, je pense que tu pourrais traduire ça, là. En étant enfermé, ils virent un peu fou. Le manque d'interaction sociale fait déconnecter un peu les gens, puis on le voit
ça,
beaucoup.
C'est quelque chose qui me choque aussi dans les confinements, c'est qu'on n'a aucune mesure d'interaction sociale qui a été développée. On n'a aucun soutien qui a été développé à part monétaire. Les gens n'ont pas besoin de quelque chose nécessairement d'ultra monétaire, n'ont pas besoin de plus d'argent. Ils ont besoin surtout d'interaction, puis surtout de soutien psychologique. Ce que je trouve déplorable partout dans le monde, en fait, c'est qu'on n'a pas pensé à cet aspect-là. Puis là, on se rend compte que c'est dangereux. Sauf qu'au lieu de faire de compte, on va déconfiner, on va faire des outils. La construction, c'est pratiquement all-in. Je veux dire, la construction, c'est pratiquement totalement déconfiné, puis ils reprennent pratiquement tous les travaux d'une shot.
La construction, il y a un avantage, par contre. Après, c'est sûr que c'est dangereux pour les gars, il faut faire les mesures en fonction d'eux. Mais la construction, il faut en profiter aussi que c'est leur... ou jamais de le faire pour que l'impact soit minimal sur la population. Les infrastructures sont sous-utilisées.
Oui, mais moi, je parle surtout des autoroutes, ça serait parfait. Parce que de base...
L'échangeur Turcot, de base, ouais.
Oui, mais t'es isolé. Je veux dire, t'es dans ta grue, t'es dans ton camion, t'es éloigné, tu flagrant.
C'est le résidentiel qui est un problème, mais en même temps, on est en pénurie de maisons et de logements. Fait que là, si t'arrêtes, ça t'empire la situation quand ça va reprendre.
C'est ça qui est drôle, pas réellement. Parce qu'on peut retrouver des articles qui datent de 2016 où tu avais une pénurie de locataires à Québec. Pourtant, la population n'est pas plus dense que ce qu'elle était auparavant. C'est Airbnb le problème. Ça, c'est quelque chose que le monde va dire, mais nous, tu parles d'Airbnb. Oui, c'est un énorme problème. Parce que
puis il y avait eu le culot de demander de l'argent en plus au fédéral. Ils se sont fait envirer de bord, heureusement.
Il y a 2 ans, il y a des locataires qui offraient un iPad si tu prenais un bail. Il y a 2 ans à Québec.
Imagine.
Ça existait. Il y avait un manque de locataires. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Il n'y a pas eu un boom de population à Québec. C'est pas vrai qu'il y en a eu un. Là. Je veux dire, c'est quand même assez stagnant. Puis on dit qu'on manque de place, c'est pas vrai. On a de la place en masse. La différence, c'est qu'on n'a pas investi dans des logements sociaux. On n'a pas investi dans des immeubles de moyenne gamme, parce que c'est soit qu'on veut des logements sociaux, soit des hauts de gamme. Mais quand tout le monde se fait des logements sociaux, ça finit par bomber des prix pareils. Ça prend des moyennes gammes aussi. On n'en a pas de moyenne gamme en fait. À Québec. On a soit des luxueux, soit des bas de gamme.
C'est vrai, j'en cherchais un logement l'autre fois, puis t'avais vraiment souhait de tomber sur un logement. T'sais, c'est pas insonorisé, c'est pas isolé, les fenêtres sont embuées, puis ça coûte quand même cher. Ou t'as un logement genre vu sur le fleuve et tout ça, ou près, puis ou dans un lieu avec les transports en commun, puis c'est super insonorisé. Il y a une slab de béton de 9 pouces entre les planchers, t'sais. Mais il peut pas avoir un juste milieu, messieurs, je veux dire.
Oui, mais c'est rare. Oui, mais en même temps, c'est surtout que ça fait plaisir aux locataires parce qu'ils font de l'argent comme ils n'en ont jamais fait versus 2016, où ils donnaient tellement un iPad pour inciter les gens. Et ça, c'est drôle. C'est que dans le moment qu'Airbnb a commencé, le monde dit qu'il n'y a pas de logement. Il y en a maintenant, quand c'est industriel, les logements différents, ils sont tous sur Airbnb. Les gens veulent faire le plus d'argent possible. Puis honnêtement, si on veut vraiment s'en sortir des logements, ça va être de mettre Airbnb sous une vision hôtelière. C'est Airbnb, c'est des hôtels, that's it. On devrait voir ça comme ça.
On ne pourrait pas simplement bannir l'utilisation d'Airbnb?
Oui, mais tu vas avoir des contestations. Ça reste dans le domaine du Oui, tu vas avoir après ça à t'ostiner avec la cour d'appel, il va falloir que tu t'ostines avec la cour suprême.
Là, ouais, fait ça du tapage pour pas grand-chose, dans le fond.
Ben, tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu peux-tu vraiment bannir versus que si tu réglementes d'une façon
restrictive.
Tu sais, faut que tu t'occupes d'Airbnb d'une façon fonctionnelle. Je veux dire, tu peux pas juste bannir ça parce que ça va te coûter tellement cher en termes de recours et tout. Puis c'est justement une chose qu'on parlait, notre bureaucratie va faire en sorte que ça va être compliqué. Versus que si tu finis par le réglementer, ce que tu as tout à fait le droit de faire, parce que tu peux réglementer puis créer ou juste le mettre avec un autre. Mettons que tu décides de le mettre dans une branche hôtelière, ça va coûter beaucoup plus cher aux gens qui utilisent Airbnb parce qu'il faut qu'ils incluent les assurances, il faut qu'ils incluent il y a des au niveau des livres comptables, si tu es un hôtel, tu t'enregistres combien de temps à un hôtel. Fait que ça coûte un peu plus cher, ça va être beaucoup moins intéressant pour les gens qui peuvent faire du Airbnb. C'est juste qu'en ce moment, c'est comme dire, moi, du jour au lendemain, au lieu de me déclarer comme un hôtel, ben, je leur dirais, j'achète un immeuble complet, je mets tout Airbnb. Tout le monde va me dire, OK, c'est quoi, tu entends tout qu'un hôtel? Ah, ben, pas vraiment, il n'y en a pas. La différence, c'est que tout peut m'appartenir, je n'ai pas payé les frais d'un hôtel.
J'aimerais juste plugger, ben, tu sais, tant qu'à parler justement de logement abordable, là, aussi bien de le mentionner, un de nos collaborateurs, Jordan, a écrit un très bon article sur le sujet. Je vous invite à le lire, c'est sur la Tribune.
L'heure est aux logements sociaux.
Exactement. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça va être une bonne continuité à ce sujet-là.
Bon. Je vous poserai juste une dernière question, messieurs, avant qu'on conclue.
Ben oui,
auriez-vous réouvert les écoles comme on fait en ce moment? Vous auriez attendu à septembre. Alors, mettons que vous êtes parents, est-ce que vous envoyez vos enfants?
OK. Alors... moi, ce qui est très intéressant, c'est j'ai ma sœur hein, qui est éducatrice dans des CPE et là, elle en fait, elle s'enligne pour être travailleuse sociale dans les polyvalentes. Okay. Et à côté de ça, eh bien, elle vient d'accoucher d'une très belle fille. Je suis fier de
ma nièce,
tout ça. Ben, merci beaucoup. Et donc là, je lui en ai parlé justement un peu ce matin. Et voici à quoi on en... Voici ce à quoi on est arrivé comme conclusion. Légitimement, c'est une très bonne chose de réouvrir les écoles, surtout le primaire, parce que c'est à ce moment-là que les jeunes se développent le plus. Ça, c'est juste la pure et simple logique. N'importe quel psychologue au monde va vous dire ce que je viens de vous dire. Mais il faut savoir nuancer. Et là, je vais me référer à ce que le syndicat des professeurs a laissé paraître dans Le Devoir récemment. Il faut absolument que ça soit régularisé et neutralisé. Il faut qu'il y ait l'équipement adéquat à un suivi de l'éducation demain jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ça nécessite... nommez-le là, masque, purée, etc. On lave les mains. Bon, vraiment une rigueur de mai à juin. Le problème est le suivant, c'est que le gouvernement n'a posé aucune mesure dans son plan à ce sujet.
Le ministre Roberge reste très vague et la grogne commence à monter à ce sujet.
Exactement. Donc, ça pose ce problème-là. Et les professeurs sont très clairs. Pas de mesures de sécurité, pas d'école. Et moi, je les encourage à 100% là-dedans. Mais, comme j'ai dit au début de mon point, il faut savoir nuancer parce que c'est à ce moment-là que les jeunes se développent le plus. Et ne pas leur permettre ce développement-là peut leur nuire considérablement sur le long terme. Donc, il faut garder ça en tête quand même, là, je pense.
Et toi, Jérémy, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, en fait, je suis d'accord avec Jonathan en premier lieu que c'est un moment crucial pour le développement de l'enfant, du psychologique, l'interaction primaire, etc. C'est surtout que ça te permet de socialiser, etc. Quelque chose que je vais apporter aussi, c'est que quand on est jeune, on a tendance à avoir un meilleur système immunitaire. Pas parce qu'on est meilleur dans ce qui s'adapte excessivement vite. C'est comme quand on est jeune, pourquoi qu'on prend du lait maternel via le sein de la mère? C'est surtout avec toutes les bactéries qui sont présentes. Ça développe un système immunitaire très rapidement. C'est quand on est jeune, on est plus en mode adaptation en général. Je ne peux pas non plus supporter ça. C'est juste que, dans le fond, ma mère traîne les CHSLD et me dit que les jeunes s'adaptent plus rapidement. C'est comme en fait le mononucléose. Quand on est jeune, on l'attrape, ça prend peut-être 2-3 jours.
La varicelle?
Exactement.
On prend le mono, ça prend une semaine, on est guéri. Quand on est adulte, ça peut aller jusqu'à un an.
Alors qu'on parle de la bonne différence, hein?
Ouais, ben c'est aussi la deuxième chose que je rapportais, c'est la troisième excuse. Il y avait un, j'avais dit que la CAQ, c'est un petit peu une bête noire en ce moment qu'ils vivent. Je veux dire, le ministre Robert, je ne vais jamais en parler nécessairement, mais je veux dire, ils sont habitués d'amener des changements sans avoir de preuves, sans avoir rien. Puis ils se rendent compte que s'ils amènent de quoi sans preuve, ça fait du tort. Pour une fois, ça peut vraiment leur revenir dans la face, mais pas dans 10 ans qu'on va être sur un autre parti. Je veux dire, ça, c'est historique de la politique québécoise. On fait une réforme qui ne fonctionne pas. On ne le sait pas sur le coup, dans 10 ans, on va le savoir, mais on va accuser le gouvernement en place au lieu d'accuser lui qui a fait la réforme. C'est souvent ça qu'on fait. Puis, mais là, il ne peut pas se permettre de faire ça. Parce que si son plan ne fonctionne pas, quand on a parlé comme ça fonctionnerait, mais là, il est directement imputable, donc on peut directement accuser ce ministre-là d'avoir fait une job vraiment merdique. Versus que je trouve que tout le temps fait vraiment une job questionnable. Dans ce cas-ci, ben, il va falloir qu'il sorte des preuves beaucoup plus solides que juste c'est efficace. L'OMS, un gars, si on parle de l'OMS, que ce soit l'OMS, CDC des États-Unis, personne n'approuve vraiment cette méthode-là parce que c'est aucunement prouvé. C'est dangereux. Puis la quatrième chose que je vais apporter, c'est je trouve que là-dedans, il y a une chose qu'on devrait prendre en considération. Tu sais, souvent, on parle d'interaction entre les enfants et les parents. Aujourd'hui, ce que je trouve drôle, c'est que beaucoup de parents qui aimeraient enseigner à leurs enfants à la maison pour qu'ils puissent réussir à résoudre leurs études, parce qu'ils ne veulent pas se pénaliser au niveau de secondaire, etc., mais ils n'ont pas les moyens de le faire, ils n'ont pas d'idée comment le faire. Ça serait fort qu'une fois par semaine, même après la crise, une fois par semaine, le ministère fasse en sorte que tu puisses faire une journée de cours chez vous. Ça, ça a l'air niaiseux, mais ça permet aux parents de supporter leurs enfants, d'avoir des interactions. Ça permet en fait d'avoir un break de l'école supplémentaire sans nécessairement que ce soit un break.
Ce bout-là, ça peut être intéressant, mais moi, c'est pas le genre de choses que je pense que ça...
C'est plus une hypothèse à vérifier pour plus tard. T'sais, ça reste un sujet de recherche qui peut être intéressant.
C'est peut-être un peu vite, genre.
Peu vite mais... et un peu désorganisé, je dirais.
Ben, moi, je vais y aller avec ma conclusion. Puis après ça, on va vraiment conclure l'épisode. Parce que là, on dérape un peu. On a défoncé. On a fait notre Jean-Marc Parent. moi, je pense que c'est une idée... qui est un pari un petit peu risqué. Mais je comprends pourquoi on le fait. C'est pas une question de santé publique dans le sens immunité collective, je ne pense pas. Je pense pas que c'est une question. Les signalements à la DPJ sont en baisse. On le sait qu'il y a des enfants en ce moment qui sont pris avec dans des situations insoutenables. C'est dur socialement puis psychologiquement pour eux. Yep. Je pense qu'on le fait dans une optique vraiment, on essaie de les aider. L'aspect santé mentale, santé physique aussi, leur sécurité physique. Pour les parents, pour ceux qui sont dans des situations compliquées. Parce que c'est clair qu'en ce moment, il y a des enfants qui vivent des situations absolument horribles qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais que l'école, le lieu où ils pouvaient peut-être s'en sauver, puis où ils pouvaient avoir quelqu'un qui sauverait, n'est pas ouverte en ce moment. Et donc là, c'est ça qu'il faut considérer. Mais c'est certain que c'est un pari qui. C'est une décision qui est difficile à balancer. T'sais. Il y a des pour et des contre. Mais moi, je pense que si on le fait de la bonne manière, ça peut être intéressant. Mais je vais vous remercier à tous d'avoir écouté le balado. C'était très intéressant. Oui. Jérémy vous remercie aussi, malgré ses problèmes de connexion.
Ben oui, c'est dommage. Mais comme
c'est
on
dommage,
vous a dit,
mais c'est les joies d'être à distance.
Ça devrait être réglé, on va l'espérer là, très prochainement. Mais on vous tiendra au courant. J'espère que ce balado vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aimer notre page Facebook. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.